Bienvenue sur Insight, un podcast proposé par le média J'ai un pote dans la com qui analyse l'actualité publicitaire et les tendances de notre société. Nous allons décrypter ensemble les différentes mécaniques créatives qui permettent de passer de l'idée à l'action. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui à mes côtés, je reçois Tom Dangui qui est directeur créatif au sein de l'agence Social Club. Salut Tom, comment tu vas ?
Salut, ça va très bien et toi ?
Ça va super bien, je suis ravi de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler ensemble des expertises que vous avez et que vous proposez au sein de l'agence Social Club. On va comprendre un peu votre travail, toi en tant que directeur créatif, comment vous pensez les campagnes, comment vous les réfléchissez, comment vous les mettez en place aussi, et surtout la patte un petit peu de l'agence aussi, parce que ce qu'on vient chercher chez vous, j'imagine, c'est un pas de côté, c'est une manière de penser qui est différente. Si tu le veux bien, pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous pitcher un peu Social Club ?
Ouais, carrément. Donc, Social Club, c'est une agence qui a maintenant 6 ans, du coup, qui a été fondée par Valentin, Corentin et Max, et qui a été rejointe très, très vite par Léo, qui est associé maintenant. Elle a été fondée autour d'une base qui était de se dire que la publicité française avait manqué un peu de craft, ou en tout cas de donner la part belle à l'image. Et du coup, on a plusieurs expertises qui répondent à ça maintenant, qui sont tournées du coup autour de un pôle branding, une expertise branding, du coup, qui est gérée par Maxime, où on fait du coup tout ce qui est identité de marque, stratégie de marque, identité visuelle, etc. Derrière, du coup, on a aussi un pôle advertising, du coup, qui est géré en création par Léo, moi et Aurélien. Là, on peut faire tout ce qui est campagne 360, du film, du print. On fait pas mal de social media en ce moment aussi. On fait des activations. On pourra parler aussi du fake OH, etc. Voilà, c'est des choses qu'on arrive à mettre en place assez facilement. Et dernièrement, on a ouvert 2 autres expertises qui est le studio, où en fait, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les capacités en interne pour produire et post-produire nos campagnes. Donc, ça va d'assets un peu plus petits en termes d'ambition, mais tu vois, tout ce qui est motion, etc., jusqu'à des assets en 3D. Donc, typiquement, on est capable de produire un fake OH en interne. Ça, c'est plutôt cool parce que du coup, on perd pas d'informations quand on produit. Et la dernière expertise qui a été lancée par les gars dernièrement, c'est une boîte de production. Donc, du coup, on a une boîte de production qui est intégrée à l'agence, qui s'appelle Pushside Theory, où du coup, là, on peut se permettre d'aller produire tous nos films, tous nos campagnes print aussi, les photoshoots, etc. Et du coup, avoir quand même une synergie assez importante. On le résume souvent comme ça, mais on est capable de créer une marque, en tout cas l'identifier et la positionner avec le pôle branding, d'en faire et d'imaginer sa campagne de publicité, que ce soit sur du film, sur du print, sur du social media, etc. Et après, on est capable de la produire et de la post-produire, tout ça en interne.
Donc, vous gardez évidemment la main sur toute la chaîne de production, la chaîne de valeur. Et c'est ça aussi qui permet peut-être une certaine liberté. Je vois Xiaomi, je vois Cityscoot, je vois Hello Work, je vois pas mal de clients plutôt sympas. Est-ce que tu peux me dire rapidement avec quel type de société, quel type d'annonceur vous travaillez ?
Ouais, historiquement, on a beaucoup commencé à travailler avec des startups scale-up, en tout cas des nouveaux services. Ouais. Beaucoup dans la mobilité, du coup Cityscoot, on a Uber aussi, je dirais Uber parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts. Mais on avait beaucoup de nouveaux services, on a eu Lydia. Ce qu'on dit souvent, c'est que si on travaille pour une banque, on va travailler pour Lydia et pas pour la BNP ou pour la Société Générale. Ou si on travaille pour de la mobilité, on va travailler pour Uber ou pour Cityscoot. On avait Tire aussi. Voilà. Donc, en gros, c'est souvent des nouveaux services. C'est surtout des usages ou des services que nous, on utilise. Donc, c'est pour ça aussi que ça peut aussi faire la différence. Et c'est aussi pour ça que nous, on est très motivés à travailler avec ces annonceurs-là. Du coup, on a aussi Xiaomi, du coup, sur les téléphones et la tech, qui est quand même une des choses assez importante à l'agence, tout ce qui est tech. On a une grosse affinité là-dessus, donc c'est assez intéressant pour nous aussi de travailler sur ça. Et voilà, on en est actuellement. On a entré d'autres clients plutôt différents et qui commencent à devenir aussi des clients qui sont plus dans la culture. Typiquement, là, on va lancer le compte TikTok France de Spotify. Donc, c'est intéressant de voir comment on peut s'immiscer un peu plus dans la culture, donc là en l'occurrence la culture musicale, et du coup aussi voir comment on peut faire des ponts avec d'autres cultures comme la mode, comme le sport, le gaming, etc.
Tu as donné déjà pas mal d'infos, mais j'avais une question par rapport à certaines prises de parole, prises de position ou phrases qu'on peut entendre, notamment la publicité classique est morte, vive la publicité, et ces différentes variantes évidemment qu'on entend souvent. Toi, qu'est-ce que tu en penses ? On a titré assez habilement le sujet de l'épisode avec Make Ads That Don't Look Like Ads. Qu'est-ce qui vous rend singulier ? Comment tu prends cet adage ? Qu'est-ce que tu penses pouvoir apporter ? Comment vous réfléchissez différemment dans la production d'une campagne de pub ?
Ouais, le Make Ads Don't Look Like Ads, qui est un peu dur à dire, pourrait être utilisé par pas mal d'agences finalement. Je pense que c'est vraiment juste nous, comment on arrive à le faire un peu glisser et vivre sur tout
à l'appliquer,
ce qu'on fait.
ouais.
Voilà, c'est ça. C'est que c'est pas forcément que sur nos réalisations, même si c'est vraiment le fer de lance, pardon. C'est aussi sur comment on voit notre façon de travailler, notre organisation et comment on travaille aussi avec des partenaires extérieurs, etc. Donc, je pense que c'est intéressant de voir comment nous, on arrive à le faire et que c'est pas juste, du coup, une phrase qu'on balance dans des decks. Et après, pour le côté la publicité classique est morte, vive la publicité, je pense que il y a tellement d'agences de publicité actuellement et tellement d'ADN aussi différents qu'on pourrait pas forcément dire que je pense que la publicité est morte. Après, je pense que la phrase, c'est plus la publicité est morte, vive les publicités, parce que je pense que maintenant, on a vraiment des manières de travailler qui sont vraiment différentes et qui sont pas antinomiques et qui sont pas forcément en opposition. Mais je pense qu'il y a là, il y a des annonceurs qui sont plus intéressés par aller vers telle ou telle agence parce qu'il y a tel ou tel travail. Et je pense que c'est aussi le travail que nous on fait, c'est d'identifier pourquoi des annonceurs viennent nous voir et de cultiver ça. Du coup, je pense que c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est aussi comme ça qu'on s'en sort finalement. Je pense qu'on peut faire aussi un petit rapport à la culture musicale. Typiquement, on a beaucoup d'artistes très mainstream, etc. Je pense que on peut aussi se dire qu'on a des agences qui sont mainstream et qui sont du coup moins de niche dans leur ADN, où nous, on va plus être entre guillemets de niche, même si on peut répondre à n'importe quelle problématique, mais en tout cas, dans ce qu'on va faire dans notre ADN, je pense qu'on va venir nous chercher pour quelque chose de particulier et ça qu'on cultive. Voilà.
Puis, je trouve que, évidemment, vos clients le prouvent, mais vous avez quand même un savoir-faire auprès de ces startups, ces jeunes entreprises, en tout cas, qui ont un mode de communication un peu différent, dans la mesure où c'est souvent des produits et des services qu'il faut transformer en marque. Et c'est ça qui est peut-être un peu plus technique, là où des marques grandes conso ou autres ont déjà leur plateforme, ont déjà un historique et une saga publicitaire. Vous bossez avec des services, des choses qui sont très souvent aussi dématérialisées. Donc il faut parvenir à raconter une histoire autour de ça.
Ouais, c'est totalement vrai, parce que moi, pour le coup, j'ai une expérience beaucoup dans l'entertainment. Notamment, j'étais chez Derwin pendant 2 ans, donc beaucoup travaillé sur du Netflix, du PlayStation, etc. Donc, c'est juste beaucoup plus divertissante, on va dire, entre guillemets, et donc, du coup, plus... Je vais pas dire que c'était plus facile pour moi, mais en tout cas, je pense que s'il y a effectivement, comme tu dis, un layer en plus à adopter quand on parle de nouveaux services et aussi un peu de réassurance à avoir, parce que en fait, il faut quand même réussir à transformer derrière le message qu'on a envie de faire passer. C'est pas juste faire de la publicité, ce qu'on peut appeler la considération, c'est aussi avoir derrière de la performance.
Comment on fait demain, je pense à Cityscoot, etc. C'est un service, c'est un produit, je l'utilise parce qu'il est utile. Qu'est-ce que tu veux me raconter de plus?
Je pense qu'effectivement...
Je caricature, évidemment.
Non, bien sûr. En fait, c'est marrant que tu utilises ces deux exemples-là parce que c'est des exemples qui sont un peu similaires dans le sens où... Hello Work et Cityscoot, c'est deux marques qu'on a rebrandées aussi et donc, du coup, qui sont arrivées par le pole branding. Donc, c'est beaucoup plus facile aussi pour nous derrière de connaître la marque et de savoir comment on communique dessus en pub. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est... le décalage visuel qu'on a apporté, je pense. Quand on parle de craft, c'est aussi ça, c'est aussi des inspirations qui sont différentes que ce qu'on peut voir actuellement dans la publicité. Si je prends l'exemple d'Hello Work, on se parle quand même de... C'était Région de Job avant. Enfin, c'était plein de petites entités, dont Région de Job, et qui se sont mixées en une seule Hello Work. Et au final, voilà, on a un message qui est quand même finalement assez concret et assez simple, mais qu'on arrive à twister et à amener de façon visuelle pour vraiment en faire une marque forte. Et au final, c'est pas juste une prise de parole sur 2-3 spots, c'est derrière l'utilisation sur toute leur identité visuelle. Enfin, on se parle bien sûr des petits bonhommes en 3D. C'est vraiment genre quelque chose qui les a poussés. Et maintenant, on sait que quand on parle des logos, qu'on parle aussi de cette DA-là, en tout cas de ce mood-là. Et Cityscoot aussi, c'est assez intéressant parce qu'ils sont venus nous voir en disant c'est ceux qui sont quand même, on voit le plus de Cityscoot que de Yigo ou de Ultra ou d'autres dans la rue. Sauf que, malheureusement, la cible préfère un Yigo ou un Ultra ou plus un Yigo parce que, malheureusement, ils sont un peu plus stylés, ils ont un visuel qui est quand même un peu plus adapté, on va dire, à cette cible-là. Et donc, du coup, ils avaient un peu un problème de considération là-dessus, sur cette cible très jeune où, c'était pas super stylé de rouler en Cityscoot. Donc, nous, on avait un petit objectif de se dire, comment on va rendre ça un peu plus stylé. Et donc, du coup, on a amené aussi une photographie, aussi une rédaction pour pour rendre en fait City Scoot un peu plus sexy. Et limite, en fait, on n'est pas loin non plus aussi du shoot de mode. On a travaillé avec Luis Carrasco, cool photographe, sur cette campagne-là, qui a un univers très coloré avec beaucoup de grands angles et de la contre-plongée. Et en fait, ça amène aussi une esthétique beaucoup plus forte et que ce qu'ils avaient avant, oui. C'est-à-dire beaucoup de 3D avant ou beaucoup de copies full typo. Et donc du coup là on amène un univers différent et on se dit que bah c'est voilà, on peut se mettre à la place des modèles qui sont sur la photo et dire que c'est stylé en fait finalement d'être sur City Scoot.
Au final le boulot est le même qu'une marque plus grand public, c'est-à-dire qu'on va travailler une image, on va travailler aussi une raison d'adhérer à la marque, c'est-à-dire c'est stylé, que au final ouais, prendre le, et pour plusieurs raisons hein, je pense, oui, prendre le City Scoot c'est éco-responsable, c'est utile, et en même temps vous avez rendu ça stylé, je pense. En tout cas, c'était l'objectif.
Ouais, mais je pense que si, il y a une vérité. Et je pense que Social Club est très vite perçu comme une agence qui fait des choses belles, mais juste belles. Et je pense qu'il ne faut pas oublier tout le message qu'on veut faire passer et toute la stratégie qu'il y a derrière, notamment sur City Scoot, où effectivement, c'était très stylé. C'est un des objectifs qu'on avait, c'était de rendre ça stylé pour les jeunes. Mais il y a aussi poussé ces offres qui étaient liées vraiment à des cibles particulières. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de dire que chacun a une façon différente de vivre la ville et que du coup, City Scoot propose aussi des offres qui sont adaptées à chacun. Donc à la fois, il y avait un pack pour les jeunes, mais il y avait aussi un pack pour les trentenaires plutôt qui bossent dans les startups, etc. C'est vraiment un peu de la caricature.
Attention, hein. On va y arriver aussi sur les 30 ans. Hein.
je suis déjà, ouais, j'ai pas de 30 ans. mais voilà, après, du coup, on a aussi une façon différente de les aborder. C'est ça qui était intéressant. Dans notre ambition, c'était vraiment de se dire qu'on pouvait parler à tout le monde, avec effectivement une direction artistique assez forte, mais de se dire que derrière, après, dans les mots, dans les packs qu'on pousse, etc., c'était très lié à la cible et très lié à l'usage aussi. Donc, on a été aussi pousser des campagnes dans les salles de sport, à la sortie des ciné, être ultra localisé à la fois dans notre message, mais aussi à l'endroit où on le fait.
Sur les éléments qui peuvent nous aider à vous différencier et qui vous rendent singulier, tu as parlé de vos méthodes, tu as parlé de l'angle que vous souhaitez aborder, du fait que vous ayez aussi en interne un certain nombre de services, notamment de la prod. J'ai aussi noté le fait que vous associez beaucoup et vous preniez beaucoup inspi de la publicité anglo-saxonne. Est-ce que c'est aussi pour vous un marqueur différenciant? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Est-ce que tu peux me préciser ça sur votre engouement pour la pub anglo-saxonne?
Ouais, je pense qu'en fait, je préfère dire tout de suite qu'on se met pas en opposition avec la publicité française. Enfin, on n'est pas en train de critiquer ça, etc. Je pense qu'on peut vite passer pour des gens qui critiquent très vite ça, mais c'est juste que nous, on est plus attirés par ça. Et je pense que nous, on parle aussi à notre cible et qui nous correspond. Et donc, du coup, ouais, effectivement, la publicité anglo-saxonne, elle nous parle un peu plus. Il y a un travail de l'humour qui est un peu plus subtil, on va dire. Notamment, voilà, plutôt dans la rédaction. Et après, visuellement, c'est quelque chose qui nous parle un peu plus. Nos inspirations, en fait, je pense que c'est ce qui est la clé, en fait, de ce qu'on fait, c'est que on essaie de pas s'auto-inspirer, ou en tout cas pas s'inspirer de la publicité, qu'elle soit française ou même anglo-saxonne. Je pense que l'anglo-saxon, c'est très cool, mais c'est une base, je pense, et derrière, nous, on va essayer de ramener des univers artistiques différents. Je pense que ça se ressent dans ce qu'on fait, c'est que chaque projet est un peu différent et a une patte artistique qui est liée un peu au projet, finalement. Ce qui compte pour nous vraiment, c'est d'amener, en fait, un univers artistique qui a jamais été vu dans la publicité, parce que je pense que c'est comme ça qu'on arrive à faire des choses qui sortent de l'ordinaire et qui attirent les gens. Donc typiquement, travailler avec un illustrateur qui a jamais fait de la pub, je trouve que c'est hyper intéressant, et d'amener cet univers-là, surtout quand il est lié au concept. C'est un peu notre force, nous aussi, d'avoir des inspirations qui sont pas des inspirations venues de la publicité. Typiquement, quand on va travailler sur un film, on va pas référencer des films publicitaires, mais on va plutôt référencer des réalisateurs de clips, ou même des réalisateurs de courts, etc., avec un style très particulier. Je prends l'exemple de Lydia, où on voulait vraiment créer un monde, un univers très fort. On a travaillé avec un duo de réalisateurs britanniques, c'est Zhang & Knight, qui ont un univers très poétique, très onirique, etc. Et donc, du coup, on a voulu pousser ça et en faire quelque chose, un contenu, en fait, assez fort visuellement et qui est différent de ce qu'on peut voir dans le paysage publicitaire français et même au-delà. Donc, voilà.
Ok, aujourd'hui, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de passer le pas, d'aller toquer un petit peu à la porte de Social Club, au-delà de la collaboration commerciale, peut-être par rapport aussi au job que vous avez, quel type de profil vous avez à l'agence et qu'est-ce qui vous rend différent? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles on s'attend pas? Est-ce qu'il y a des méthodes de travail ou des profils qu'on retrouve pas ailleurs?
Bah ouais, en effet, je pense qu'on a beaucoup de ce qu'on appelle des makers, en fait, des gens qui font, et c'est ça qui est assez intéressant et qui viennent pas du coup du milieu de la publicité. Du coup, des références différentes à nous amener. Du coup, Léo, moi, etc., Val. Enfin, on a des références publicitaires parce qu'on vient du milieu de la publicité, mais on travaille avec des gens qui font et qui sont des designers, etc., qui ont pas ces références-là, mais qu'on du coup qu'en ont d'autres et du coup associés aux nôtres. C'est hyper intéressant de voir ce que ça peut donner. Typiquement, on a des 3D artistes qui sont ultra ultra chauds et qui arrivent à du coup à déjà produire rapidement des assets en 3D, ce qui est quand même assez cool, mais aussi de nous amener en fait une patte qui est vraiment différente. Donc eux ils sont plutôt issus de studios, même de freelance, mais voilà, qui travaillent beaucoup plus dans la musique ou dans des milieux plus artistiques, genre la mode, etc. Donc ça, c'est plus pour nos profils en interne. Aussi, on a parlé de la partie branding et design. C'est vrai qu'il y a des synergies qui se mettent en place, et quand on est sur une campagne print, bah c'est hyper intéressant de pouvoir se dire qu'on a quelqu'un derrière en design qui est capable de nous tomber en fait le print qu'il faut, de même faire les recherches en amont sur comment on va mettre ça en page et visuellement ce que ça va donner. Donc voilà, et après bah il y a toute cette partie aussi club qu'on valorise. On pourrait se dire que le club c'est quelque chose de très fermé, parce que quand on dit club c'est quelque chose de fermé, mais nous on le définit plutôt comme quelque chose de très ouvert finalement. En fait, le club c'est vraiment tout ce qui gravite autour de l'agence, et en fait on a beaucoup de relations, même d'amis, etc., qui travaillent dans des milieux différents et donc qu'on peut aussi activer sur certains sujets. Donc, typiquement, je prends l'exemple d'un photographe qui travaille chez nous, enfin en tout cas qui est pas en interne chez nous mais qui travaille à l'agence de temps en temps. Bah dès qu'il fait de la photographie de mode, donc du coup sur des sujets un peu plus mode, et ben voilà, on peut l'activer lui. Typiquement sur des modèles, sur du stylisme, etc. Voilà, on a tout cet univers-là qui gravite autour de nous et on est capable d'activer sur n'importe quel sujet, c'est un peu ambitieux, mais sur beaucoup de sujets en tout cas, des gens qui sont vraiment très très intéressants ou très très experts dans cette culture-là, ce qui nous permet du coup de pas être en surface en fait sur les sujets, mais d'être vraiment beaucoup plus profond là-dedans. Donc, c'est-à-dire, si demain on travaille, typiquement, je mentionnais Spotify, ben on travaille avec des gens qui sont vraiment dans cette culture-là, qui sont vraiment des experts dans cette culture-là, et on n'est pas sur des gens très connus, mais du coup beaucoup plus intéressants, et on peut vraiment rentrer à fond dans cette culture-là, ce qui est hyper intéressant, parce que derrière en fait on est légitime dans ce qu'on fait, quoi, finalement.
Aujourd'hui, l'agence, évidemment, nous, on la connaît bien. Ceux qui suivent, j'ai un pote aussi. En tout cas, j'espère qu'il y a une connaissance des différentes activités, autant des campagnes qui sortent surtout. Est-ce que tu peux me dire un petit peu où est-ce que vous vous projetez sur les 6 prochains mois et peut-être aussi plus largement sur les 6 prochaines années?
C'est compliqué comme question.
Exactement.
C'est compliqué pour moi, surtout parce que du coup, moi, je suis directeur de création, mais je suis pas dans les visions à long terme, on va dire. Mais en tout cas, sur les 6 prochains mois, je pense qu'on commence à rentrer sur des sujets vraiment plus ambitieux. Et comme je le disais aussi, il y a un petit virage qui est beaucoup plus culturel dans ce qu'on fait, dans les projets qui arrivent finalement assez naturellement. On a des campagnes pour les Olympiques, donc c'est trop cool de pouvoir entrer dans cette culture aussi du sport. On est sur un appel d'offres du coup sur une marque de mode. On a du coup Spotify qui vient de rentrer sur de la musique. Donc voilà, on va rentrer un peu plus dans des problématiques de culture, et du coup je trouve ça hyper intéressant. Et voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi créer des liens entre ces marques et d'aller du coup aussi en attirer d'autres. Après, moi je sais qu'il y a aussi une volonté au club de rester très artisanal dans ce qu'on fait, c'est-à-dire que de pas grossir trop vite. Moi je l'ai vécu, et on en voit beaucoup des agences qui étaient très expertes, ou en tout cas très fancy dans un moment où ils avaient un ADN très fort, et du coup ça marchait trop bien, et puis bah ils ont grossi très vite, et très vite on le perd. Je me souviens d'un post LinkedIn de quelqu'un qui avait raconté ça, et qu'en fait c'était un cycle un peu infini de quelqu'un crée une agence, c'est super, il y a une super ADN, une super culture, ça bouge très bien, ça bouge très bien, et du coup il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par y aller, et puis au final bah les créatifs qui sont dedans, ils se rendent compte que ça commence à évoluer de manière à être très, malheureusement, très business aussi, et du coup moins dans l'ADN de ce qu'ils aiment. Du coup, ils sortent et créent leur agence, et c'est un peu un cycle infini à la fin, de se dire que j'ai l'impression que plus on grossit, plus on perd un peu ce côté très artisanal, ou en tout cas cet ADN et cette culture. C'est pour ça que nous, on fait aussi très attention aux personnes qui rejoignent le club. C'est que voilà, il y a évidemment un gros fit à avoir avec les personnes du club et l'ADN du club, mais on fait hyper gaffe à ça, parce qu'on n'a pas envie de de grossir trop vite et de perdre en fait cet ADN qui nous est cher.
Ok, hyper clair pour moi, Tom. Est-ce que moi je trouve intéressant le, aussi quand tu dis le club, il y a vraiment cette patte et ce cet angle hein, en opposition complète à ce qui est fait un petit peu à côté. Hein. Par rapport aussi aux agences tradies sur la verticalité, on l'a un peu évoqué, les process, les timesheets, etc. On sent qu'il y a une manière de bosser qui est différente, on sent qu'il y a un angle et une patte aussi singulière au sein de l'agence. Est-ce que tu peux, pour terminer cet épisode, nous parler peut-être d'un case qui, toi, te rend particulièrement fier et nous donner voilà, une touche un petit peu d'inspiration pour terminer cet épisode et me dire le projet dont tu es le plus fier et ce qu'il faut noter sur ce projet-là?
Ouais, c'est un peu, c'est toujours compliqué de choisir parmi ces bébés, mais projet dont je suis plus fier, il y en a plein en fait.
Que ce soit sur le rendu ou même sur le process, parce qu'au-delà du rendu qui est quali, il y a aussi peut-être le côté, est-ce que t'as pris un kiff particulier à bosser sur un sujet qui, bah, de base, hyper dur, pas sexy, compliqué à manœuvrer, qui au final, pendant la période de taf, a été kiffant, voire peut-être même plus que la sortie. Ça, c'est possible aussi.
Non, carrément, après, je pense que enfin, en premier, je dirais City Scoot, on en a déjà parlé. Effectivement, je trouve que c'est hyper intéressant de voir comment on peut moderniser une marque et de le faire de manière visuelle assez forte et aussi de manière dans la cible en fait qu'on va toucher, de le faire très pertinente en fait. Je vais plutôt parler de Xiaomi parce qu'en fait, je trouve que c'est intéressant Xiaomi parce que c'est un client qu'on a au fur et à mesure, on a créé une vraie relation de confiance avec eux. Et donc du coup, là, on a signé un contrat cadre avec eux sur l'année et en fait, ça s'est fait assez progressivement et de manière assez naturelle. C'est des en tout cas, les personnes qui, nos clients qui ont notre âge et qui ont les mêmes envies que nous. Donc, c'est aussi intéressant de travailler avec des personnes comme ça. Et en fait, ce qui est intéressant, je parlais de culture aussi, c'est que, bah, en fait, Xiaomi, ils ont un téléphone qui est, du coup, co-créé avec Leica. Et donc, du coup, on rentre aussi dans une culture de la photographie qui nous correspond, nous, parfaitement parce que on a beaucoup de relations là-dedans. C'est un univers qui nous plaît énormément. Et effectivement, c'est assez naturel avec, quand on parle de ce club, de parler de photographie. Et donc, du coup, sur toutes les prises de parole, en fait, on arrive aussi à ramener cet univers de la photographie et que ce soit dans les gros films ou que ce soit quand on travaille avec des influenceurs, des créateurs ou même quand on crée des événements, parce qu'on a créé un événement avec eux aussi à la Gaîté Lyrique autour de vraiment tout cet univers photographique et autour des émotions qui peuvent être procurées et qu'on a envie de procurer à travers la photographie. Donc voilà, je pense que Xiaomi, c'est un vrai accomplissement parce qu'on a recréé une vraie relation de confiance avec eux et qu'on arrive à faire des choses vraiment cool avec eux et on se challenge les uns les autres et donc ça, c'est assez cool et on fait des belles choses et que ce soit de l'événement, que ce soit du social, que ce soit du fake-ovage parce qu'effectivement on a fait du fake-ovage avec eux aussi également. Donc ils sont très ouverts et c'est trop cool de travailler avec des gens comme ça.
Parfait, écoute, le message est passé et on espère qu'ils nous écoutent. Tom, merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions déjà.
Merci à toi, c'était cool.
Je suis ravi de t'avoir eu au micro d'Insight, un podcast de G1Pod dans la com. N'hésitez pas à suivre évidemment les actus de Social Club sur la page dédiée sur G1Pod dans la com. Il y a les campagnes, il y a les différentes réalisations, il y a tout ce qu'il faut. Merci à tous de nous avoir écoutés et moi je vous dis à très bientôt.